Voilà, Joël m'a demandé d'apporter le conseil de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la veille du réveillon. Alors devinez de quoi je vais parler. Alors si vous permettez, j'ai intitulé ce message en marquant Jésus, homme ou Dieu, parce que j'aimerais qu'on rétablisse un peu les choses, si vous permettez. J'aimerais, si vous avez quelques instants, qu'on fasse un peu d'histoire, qu'on voie un peu l'histoire de la naissance de Noël, la date. Et déjà quand on commence par la date, on s'aperçoit que Jésus n'est pas né à cette date. Quand on prend les calendriers, quand les théologiens commencent à étudier le calendrier, on s'aperçoit qu'il y a déjà 4 ans d'écart. 4 ans avant Jésus-Christ, Jésus était né 4 ans avant que ce calendrier arrive. Et d'autres personnages, d'autres témoignages, où les plus anciens disent que c'est moins de 2 ans avant Jésus-Christ. Déjà dans la date, ça ne va pas. Et on sait que ce calendrier, notre calendrier grégorien, il a été créé au XVIe siècle. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Après, pour vous parler de la date du 25 décembre, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Alors il n'y a rien qui va. Je suis désolé, mais c'est la réalité en plus. Parce que traditionnellement, on associait la date du 25 décembre à la naissance de Jésus. Mais savez-vous que c'est sans fondement biblique, que ce fameux 25 décembre, quand on commence à étudier les Écritures, à les regarder de près, elle ne coïncide pas. Et ça, cette date du 25 décembre, elle a été mentionnée pour la première fois en 204 par Hippolyte de Rome. Et savez-vous que cette date, en fait, elle marque le solstice d'hiver et le début de l'allongement des jours. Et elle fut célébrée pour symboliser, écoutez bien, la naissance du soleil invaincu. Et tout ça, on l'a associé à Jésus ressuscité. Et il est évident, frères et sœurs, que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et quand on lit le texte de Luc, chapitre 2, verset 8, où il est dit que les bergers étaient dans les champs, dans les troupeaux de la nuit, il dit qu'à cette époque-là, c'était la saison des pluies. Et que le soir, les bergers rentraient les troupeaux à l'abri. En fait, ce n'était pas le mois de novembre-décembre. Parce que ce mois-ci, le mois de Kislev, le 9e mois du calendrier juif, c'était un mois froid et pluvieux. Et le mois de décembre et de janvier, il est même dit que dans ce mois-ci, il y avait même de la neige sur les hauteurs. Donc on imagine mal les bergers avec leurs troupeaux, en pleine neige, en plein froid, avec Jésus-Christ. Mais par contre, on s'accorde pour dire que Jésus est né plutôt en septembre. Septembre ou au mois d'octobre, à la fin de l'été. Au mois de Tishrit, juste à la fin de l'été. Et si on veut aller même plus loin, quand on prend Zacharie, qui a eu Jean, le cousin de Jésus, parce qu'on sait à quelle époque Zacharie a annoncé la venue de Jésus, on s'aperçoit bien que Jésus est né plutôt en septembre. Donc voyez-vous, on dit que Jésus est né il y a 2000 ans, on a une erreur de 4 à 2 ans, on dit qu'il est né le 25 décembre, et ce n'est pas le 25 décembre, on a fait tout faux, quoi. Eh oui. Permettez-moi de vous parler aussi de Noël. Parce que souvent, on dit Noël, joyeux Noël. Mais savez-vous que le mot Noël, il n'existe qu'en français, que pour les Français, ce mot. Parce que pour les Anglais, c'est Merry Christmas, joyeuse messe de Christ. Pour les Espagnols, c'est Feliz Navidad, alors pardon pour la prononciation. Pour les Italiens, c'est Buono Festa Natalis, c'est-à-dire bonne fête de la nativité. Mais nous, les Français, on a choisi le mot Noël par rapport à le mot di natalis, pour fêter la naissance de Noël. Alors, en prenant les contractions des lettres, de NA, de L, on est arrivé au mot Noël. Et d'autres ont justifié le mot de Noël dans Luc chapitre 2, verset 11, où il nous est dit, il est né pour vous Emmanuel. Et dans le mot Emmanuel, il y a la lettre N, la lettre V, E et L, pour dire Nev, Naël. Donc tout ça, ça fait un amalgame. Et ce mot arrivera au mois, le mot de Noël arrivera à l'an 1175, où on écrira pour la première fois le mot Noël. Donc c'est pas si vieux que ça, en fait, le mot Noël. Et pour conclure, ce mot Noël, il signifie le jour de la naissance de Christ. Voilà comment un peu est arrivé le mot Noël. Mais si on veut aller plus loin, frères et sœurs, et si on veut regarder un peu la face cachée des choses, c'est que le mot Noël, il vient aussi du mot noyo, qui signifie nouveau, et du mot el, qui signifie soleil. Et même en grec, il vient du mot néos, qui signifie nouveau, et helios, qui vient du mot soleil. En fait, le mot Noël, c'est le culte du soleil. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on dit joyeux Noël, on fête le culte du soleil. Et à partir de là, il y a eu tout un amalgame de paganisme et de foi chrétienne, on a tout mélangé. Et si on veut encore reculer, encore pour voir un peu ce qui se passait à cette période du 25 décembre, il est dit qu'à cette époque-là, c'était la fête de la lumière. Et à cette époque-là, le 25 décembre, il y avait de grandes fêtes pour la fête de la lumière. Il y avait même des sacrifices, on sacrifiait des taureaux et on sacrifiait même des jeunes enfants pour le 25 décembre. Vous vous rendez compte ? Et dans le monde romain, les Saturnales du 17 décembre étaient une période de réjouissance et d'échange de cadeaux. Le 25 décembre, c'était également considéré comme le jour de la naissance du dieu iranien, du dieu Mitra, le soleil de la justice. Le jour de l'an, le 1er janvier, les maisons étaient décorées de verdure, de lumière, de cadeaux qu'on remettait aux enfants. À cette célébration est ajouté le rite des rites germaniques avec la bûche de Noël, avec de la nourriture, la fraternisation, avec le fameux sapin de Noël. Ce sapin de Noël, excusez-moi, c'est pas réjouissant ce matin. Mais le sapin de Noël, c'était le jour de la renaissance du soleil, le 24 décembre. Il était associé à ce fameux sapin, à l'arbre qui était l'épicéa. Et cet arbre, il symbolisait l'enfantement. Et cette tradition païenne s'est rapidement reproduite dans le monde chrétien, au XIe siècle, par les fidèles, représentant cet arbre du paradis par un sapin garni de pommes rouges. Voilà un peu d'où est venu un peu ce fameux sapin de Noël. Et pareil, on y faisait des cadeaux, on y faisait des vœux. C'était la fête du soleil, la fête avec où on fêtait le feu aussi. Donc le 25 décembre n'a pas été choisi parce que c'était la date de la naissance de Jésus, de Yeshua, mais parce qu'elle s'en approchait. Elle fut choisie parce qu'elle coïncidait avec le festival idolâtre et païen des Saturnales. Le 25 décembre, Natalis, Solis Invictis, culte de Mitra, où la naissance du soleil invisible était décrétée par l'empereur. Il a été décrété par l'empereur en 274 comme religion d'État. Et il faut savoir que plus tard, en 330-354, où l'empereur Constantin et l'Église de Rome ont choisi arbitrairement le 25 décembre en tant que date à laquelle était le Fils de la Lumière. Tout ça pour substituer et introduire un peu de christianisme dans cet océan de paganisme. Alors peut-être que j'ai mis la confusion dans vos têtes, frères et sœurs, mais c'est voulu. Parce que vous savez, nous on est là pour honorer Dieu. Et je ne pense pas que Dieu il aime les mélanges. Nous, on est là pour lui rendre gloire. Le Seigneur Yeshua, il a dit qu'il était la lumière du monde et qu'il n'y a en lui point de ténèbres. Et l'apôtre Paul va déclarer dans Romains chapitre 1, 18, verset 25, il va déclarer que qu'adorer la créature au lieu du créateur n'est qu'une pure folie de la part de l'être humain créé à l'image de Dieu. En sommes-nous bien conscients de cela? Et dans Exode, déjà 1520 ans avant Jésus-Christ, il est dit dans Exode, où Dieu va rappeler à son peuple, tu ne feras point d'image taillée, tu ne te représenteras quelconque, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, même sous l'eau, plus profond que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Il dira, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Dites-moi, qui n'est pas jaloux? Hein? Maintenant, les gens, les maris, les femmes, ils vont à droite, à gauche, mais ça ne dérange personne. Et vous l'accepterez, ça? Et Dieu, qui est notre Créateur, lui qui est le roi des rois, lui qui nous a créés, nous sommes tout à lui, on accepterait de se mélanger avec le monde, aller de partout? Dans Deutéronome, chapitre 12, verset 29, Dieu dira, verset 29 et 30, quand il a établi son peuple sur la terre d'Israël, il a dit, « Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. » Quel avertissement! Il dira, « Car elles servent leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. » Et même à cette époque, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de Dieu. Alors voilà bien des choses peut-être qui nous rappellent dans notre qui nous rappellent qu'on fait bien des mélanges, frères et sœurs. On fête la Noël, on met un beau sapin à la maison, on met la crèche au pied du sapin, tout le monde s'embrasse. Il y a un mélange de paganisme, un mélange où Dieu est associé à toutes ces fêtes depuis les origines des temps, où les gens adoraient la nature, adoraient le soleil. Alors dans tout ça, quelle importance a Dieu pour nous? Et dans tout ça, je voudrais qu'on s'arrête sur l'importance de la naissance de Jésus pour Dieu. Parce que nous, dans ce monde, le 25 décembre, on voit le petit Jésus dans la crèche. Mais quelle était l'importance pour Dieu, la naissance de Jésus? Alors je voudrais souligner que déjà au 4e siècle, les chrétiens ne célébraient jamais la naissance de Jésus, jusqu'au 4e siècle. Donc ce n'est pas si vieux que ça. Et je voudrais aussi vous rappeler que dans la Bible, il n'y a rien qui dit de célébrer la naissance de Jésus. Ni pour Jésus, ni pour aucun homme. Jésus aurait pu dire, comme il a dit, vous prendrez le pain et le vin en mémoire de moi, il aurait pu dire, en mémoire de moi, tous les ans, vous fêterez ma naissance. Voyez-vous, ce n'est pas marqué dans la Bible, ça. Dieu ne nous demande pas de fêter la naissance de Jésus. Ce n'est pas dans la Bible. Et pourtant, quand on lit les Écritures, dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'il y a plus de 365 prophéties qui annoncent la venue du Messie. Comme pour dire tous les jours, le Messie viendra. Il viendra. Il viendra, il viendra pour sauver le monde. Et récemment, des chercheurs ont découvert que dans la Bible numérique, il y a des mots qui ressortent. Et dans toutes ces prophéties, il y a un mot qui ressort, c'est Yeshua, c'est Jésus. Déjà, dès l'origine des temps, Jésus voulait annoncer son Fils. Jésus voulait annoncer son Fils. Et c'est ce qu'il a fait. Il est dit, et c'est ce qu'a lu mon frère, quand les anges ont parlé au berger, il est dit, aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Dieu a voulu marquer le moment où Jésus est venu. Dieu a voulu marquer ce moment-là pour dire, ça y est, toutes ces promesses, depuis 1500 ans que je les annonce, eh bien, ce jour, il est arrivé. Ce jour, il est arrivé, et ce jour va marquer le départ de l'accomplissement de la prophétie. Et j'aimerais vous dire, le plus important, c'est l'arrivée, ce n'est pas le départ. Et Dieu n'a pas voulu souligner le départ, mais il a voulu marquer son temps. Même les anges ont marqué son temps en disant, il est arrivé, c'est aujourd'hui qu'est arrivée la prophétie. Même la nature dans le ciel, les mages ont reconnu qu'il se passait un signe. Même la nature a reconnu que cette prophétie allait s'accomplir. Même des hommes et des femmes, comme Zacharie, comme Jean, comme Siméon et Anne, ont reconnu que cet enfant serait le Messie. Mais il n'a jamais dit, ce jour est un jour glorieux, ma naissance. Vous fêterez ma naissance, vous vous réjouirez le jour de ma naissance. Non, non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit d'en faire un rituel. Et ça, je crois que c'est important, frères et sœurs. Considérons qui est Jésus. Ce n'est pas ce petit enfant dans la crèche. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu, certainement pas. Et souvent, on fait des vœux, c'est la tradition, on se fait des cadeaux. Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait. Et ce qui est même frappant, c'est que de la naissance de Jésus jusqu'à son ministère, la Bible n'en parle pratiquement pas. Il est dit qu'il grandait en stature et en grâce, en sagesse. Mais c'est tout. C'est bizarre. On ne parle pas de sa première dent. Jésus tombe sa première dent. On ne nous parle pas de ses premiers pas. On ne nous parle pas que quand il était à l'école, de son adolescence, on aurait pu bien écrire des textes sur l'enfant Jésus. On aurait pu bien faire des choses. Non, non. Dieu ne nous parle pas de ça. Il veut marquer le temps où la prophétie, elle est là, elle est arrivée, elle est là pour marquer ce départ et qu'elle est en route pour être accomplie. Et là, il y a un trou pendant 30 ans, 29-30 ans, où on ne parle plus de Jésus. Et après, Jésus commence son ministère. Et là aussi, il va se passer des choses extraordinaires. C'est qu'un homme qui guérit, un homme qui fait des miracles, un homme qui multiplie les pains, un homme qui nourrit la foule, croyez-moi, ça attire. Hein. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, s'il y avait une personne comme ça, il y en aurait des foules. Il y en aurait des gens qui se prendraient à ses pieds. Ça attire. Il est dit dans Luc, chapitre 12, verset 1, « Les gens étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. » Et dans Matthieu chapitre 15, verset 30-31, il est dit que Jésus s'approcha, alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle les boiteux, des aveugles, des muets, des extropiés, et beaucoup d'autres malades. Il les mit à ses pieds et il les guérit. Il est dit qu'une grande foule, dans Jean chapitre 6, verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Non seulement il opérait des miracles, mais il va nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. Purée, mais moi, un homme comme ça, je voudrais qu'il soit là parmi nous. Dès que je suis malade, je viens le voir, il me guérit. Dès que j'ai faim, il me multiplie la nourriture. Et voilà pourquoi les foules suivaient Jésus, parce qu'il faisait des miracles. Alors, il y en a qui adulent le petit enfant dans la crèche. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont besoin que Dieu les bénisse dans leur vie, qu'ils veulent un miracle. Ils veulent que Dieu les nourrisse. Et c'est légitime. Mais ce n'est pas la raison de la venue de Jésus-Christ, frères et sœurs. Ce n'est pas la priorité. Ce n'était pas sa priorité. Et ça, je crois qu'on doit bien le comprendre. Si Jésus guérissait, si Jésus bénissait, c'est parce qu'il t'aime par-dessus tout. Et s'il y a bien une personne qui ne peut pas supporter la souffrance, qui ne peut pas supporter le péché, c'est Jésus. Et lorsqu'il passait sur cette terre, lui qui était sans péché, lui qui était pur, ne pouvait pas s'empêcher de voir la misère des gens. Il ne pouvait pas s'empêcher de voir la tristesse, de voir ce que le péché pouvait faire. Il est évident qu'il les guérissait. Il est évident qu'il les bénissait. Il est évident. Et il y a une histoire qui m'a marqué, c'est cette histoire des 10 lépreux. Il est dit que lorsqu'il traversait les villes et les villages qui se rendaient à Jérusalem, il y a 10 lépreux qui sont venus le voir. Ils ont dit, et de loin, ils ont dit, « Jésus, maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous. » Et Jésus va leur dire, « Écoutez, j'ai pitié de vous. Allez vous montrer aux sacrificateurs, allez vous montrer aux religieux de l'époque, allez vous montrer que je peux faire un miracle et que je peux vous purifier. » Ils sont allés, ces 9 et 10 personnes, et en chemin, le miracle est arrivé. Comme peut-être toi, tu viens ici dans cette église pour avoir le miracle, et Dieu, dans son amour, va donner le miracle. Mais il va se passer une chose qui est bien triste. Et Jésus va faire un constat. Dans Luc chapitre 17, verset 17, il va dire à cet homme qui est revenu, « Mais les 10 n'ont pas été guéris, les 10 autres, où sont-ils ? Et les 9 autres, où sont-ils, pardon ? » Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Donc ça veut dire que sur 10 personnes, il y a un seul qui a reconnu la main de Dieu. Un seul est revenu pour glorifier Dieu. Donc je voudrais aussi m'appuyer sur cette chose. C'est que Dieu, il n'est pas venu pour te guérir. C'est vrai que tu as besoin de guérison. C'est vrai que tu as besoin peut-être dans ton corps, peut-être dans ta situation, que Dieu agisse. Mais comme c'est dit lépreux, bien souvent, nous sommes ingrats. Bien souvent, on vient voir Jésus par intérêt. Et une fois qu'on a ce qu'on désirait, eh ben, Seigneur, on lui dit, Seigneur, à la prochaine. Hein. Eh oui. Seigneur, à la prochaine. Donc, est-ce donc ça pour toi, Jésus ? Est-ce que c'est ce Jésus dans la crèche ? Est-ce que c'est ce faiseur de miracles ? Est-ce que c'est ça l'importance qu'a Jésus dans ton cœur ? Même Jésus leur dira, vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils ne connaissaient pas Jésus. Jésus va pourtant leur dire, je suis la lumière du monde. Et ces gens, cette foule, va lui dire, mais qui tu es toi pour être la lumière du monde ? Alors Jésus va leur répondre dans Jean chapitre 8, verset 19, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Je voudrais vous faire une remarque. Lorsque Jésus a choisi ses disciples, c'est bizarre, il n'a pas pris un aveugle qui avait retrouvé la vue. Il n'a pas pris un boiteux ou un paralysé. Il a choisi des hommes qu'apparemment, ils n'avaient pas de besoin. C'était des pêcheurs, ils gagnaient leur vie, ils étaient en bonne santé. Matthieu était un PAG. Je suis sûr qu'il manquait de rien. Mais il a appelé des hommes qui avaient un cœur pour Dieu. Et ils ne sont pas venus par intérêt. Parce qu'on aurait pu dire, oui, ses disciples, lui, c'était un ancien aveugle, c'est normal, il a guéri. Oh, lui, il était paralysé. Voyez-vous, il a relevé, c'est obligé. Non, mais ces hommes, ils n'avaient rien de spécial. Ils avaient quelque chose en eux. C'est qu'ils avaient soif de Dieu. Et Jésus appelle des hommes et des femmes, il leur dit, viens et suis-moi. Parce que sa première mission, c'est pour qu'on apprenne à le connaître. Qu'on apprenne à marcher à ses côtés. Qu'on s'attache à lui. Parce que de s'attacher à Jésus, tu vas découvrir le Père. De s'attacher à lui, tu vas découvrir le Père. Alors souvent, on ne réalise pas la mission de Dieu. Et souvent, j'entends dire, oui, mais si Jésus il est venu en tant qu'homme, c'est parce qu'il avait besoin de connaître ma souffrance. Il avait besoin d'avoir faim et soif comme moi. Mais excusez-moi, frères et sœurs, vous croyez que le Dieu de l'univers, il ne connaît pas ta souffrance? Vous croyez que le roi des rois, lui qui, que tu n'as pas dit un mot, il le sait déjà, il ne sait pas ce que c'est la faim et la soif? Ce n'est pas pour ça qu'il est venu, Jésus. Il est venu pour faire connaître le Père. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes les créatures de Dieu. N'oublions pas que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes sa nature, nous sommes de sa source, nous sommes à lui. Il nous a créés pour vivre en harmonie avec lui. Mais malheureusement, le péché nous a séparés de lui. Et le péché, c'est une souillure. Le péché, ça nous rend malades. Mais comme Dieu nous aime, c'est obligé qu'il nous ramène. Vous auriez, vous, abandonné votre fils, votre fille? Nous sommes les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas nous abandonner. Et il y a une loi spirituelle qu'on a tendance à oublier. Cette loi spirituelle, elle sera dite dans Hébreux chapitre 9, verset 22 et dans l'Ancien Testament, que sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Alors c'est difficile à comprendre cette parole. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Savez-vous que le sang dans notre corps, il parcourt notre corps en 60 secondes? Et si on fait un effort, il peut aller 4 à 6 fois plus vite. Donc constamment, le sang, il monte, il descend, il traverse, il part du cœur, il agit dans notre corps. Et savez-vous ce que fait le sang dans notre corps? Il va nourrir notre corps et il va le nettoyer, frères et sœurs. Le sang a cette action de purifier le corps. Et si Dieu parle du sang, c'est qu'il y a une raison. Et on a fait ces découvertes au cours de nos siècles. Mais figurez-vous que 1500 ans avant Jésus-Christ, Moïse dira dans le Lévitique chapitre 17, verset 11, il dira « En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. » Eh oui, ton sang te purifie. Et on avait besoin d'être purifié. Souvent, on fait des transfusions sanguines. Je pourrais dire qu'on avait besoin de cette transfusion. On avait besoin de ce sang qui nous purifie. Et le verset 14 nous dira dans Lévitique 17, « Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en nous. » Donc, il fallait un sang pour nous purifier. Alors, qui sur la terre aurait pu dire « Moi, mon sang est pur ?» Qui sur la terre aurait pu dire « Moi, je peux vous purifier ?» Personne. Il fallait quelqu'un qui puisse nous purifier. Et ce quelqu'un, c'est le Fils de Dieu. Ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui est descendu. Quel amour! Quel amour! Jésus lui-même est descendu pour donner son propre sang. Parce que lui, son sang, il était pur. Et lui, son sang, il pouvait couler en nous et nous purifier. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu sur terre pour nous ramener auprès de Dieu. Jésus est venu sur terre pour qu'on apprenne à le connaître. Jésus est venu sur terre pour que vraiment nous marchions avec lui. Et quand on lit dans Jean chapitre 17, cette prière que Jésus va faire à Dieu, qui est formidable, on prend le verset 3 et 4, il est dit « Or la vie éternelle », Jésus fait cette prière, il dira « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Jésus est venu sur la terre pour que tu le connaisses. Est-ce que tu as compris ça? Il n'est pas venu pour faire des miracles, ce n'était pas la priorité. Il n'est pas venu pour que tu vénères un petit enfant dans une crèche, ou je ne sais quoi. Il est venu pour que tu le connaisses et que tu connaisses le seul vrai Dieu, celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alors il dira, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et quand on prend le verset 6, 7 et 8, il y dit, je t'ai fait connaître. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Maintenant, ils ont connu tout ce que tu m'as donné. Voilà ce que c'est la vie avec Dieu. C'est une vie où Dieu nous a appelés à le connaître. Et peut-être, c'est vrai, tu vis des situations difficiles, peut-être que c'est pas tous les jours rose la vie, parce que des fois la vie elle est comme ça. Mais Dieu ne cessera de nous appeler. Et lorsqu'il se baladait sur la terre de Palestine, à Jérusalem, il invitait les gens à le suivre. Parce que de s'approcher de Jésus, ça nous ouvre les portes du ciel. De s'approcher de Jésus, c'est connaître le Père. Et c'est ce que Jésus voudrait pour nous encore. Il voudrait nous rappeler qu'on a besoin de rester attaché à lui. On a besoin de s'attacher à lui et de l'honorer, de le célébrer. On a besoin de considérer qui est Jésus. Et pendant ces temps de fête, rien, ça n'enlève rien de se réjouir en famille, hein, frères et sœurs. Ne dites pas que ce soir on jette tout. On ne fait pas la fête parce que c'est la fête de la lumière. C'est fini, plus jamais je ferai le 25 décembre. Dieu n'interdit pas de se réjouir en famille. Mais n'attristons pas Dieu, frères et sœurs. On est là, c'est vrai, c'est des moments de repos, de fête. On prend du repos, ça nous permet de nous retrouver en famille. Mais glorifions Dieu. Ne mélangeons pas les choses de ce monde, tout le paganisme. Dieu est un Dieu jaloux. Et je voudrais terminer parce qu'il m'est arrivé cette semaine. Alors, ne rigole pas trop fort. Parce que j'étais travaillé, je me disais, mais c'est sympa de faire la fête de Noël, un sapin, de faire un peu comme tout le monde, en fait. Et figurez-vous que mercredi matin, j'arrive au travail, et j'ai le collègue de travail qui me regarde comme ça, il me dit, « Oh, t'étais pas bien réveillé ce matin. » Alors je le regarde, je lui dis, « Pourquoi il me dit ça ?» Et je regarde, figurez-vous que je m'étais trompé de chaussure. J'avais mis une chaussure noire et une chaussure bleue. Et je m'en étais pas rendu compte. Pas du tout. J'avais deux paires de chaussures différentes. Une bleue et une noire. Je dis, ben ça, alors c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Ça. Mes frères et sœurs, toute la journée, ça m'a travaillé. Parce que je me suis dit, mais tu sais pas sur quel pied danser, en fait. Et j'ai pensé à cette parole du prophète Élie, qui a rassemblé tout son peuple du temps d'Akab, vous savez. Tout son peuple qui faisait ce qu'il voulait. Allez, on mélange Dieu et le prophète Baal, allons-y, tout est merveilleux, on fait la fête. Et il va leur dire, vous savez ce qu'il va leur dire ? Jusqu'à quand clocheriez-vous des deux pieds ? Jusqu'à quand clocheriez-vous des deux côtés ? Et c'est un peu ce que Dieu voulait me dire à moi. Il me dit, tu vois, tu crois que tout est normal. Mais moi, je te vois, tu sais. Peut-être que toi, tu te sens bien dans cette chaussure ou dans ce pied. On fait un peu comme tout le monde. Mais moi, je te vois et mon cœur est attristé. Parce que je veux que tu m'honores. Et ça me fait mal au cœur. Parce que je veux honorer Dieu. Je ne veux pas qu'il y ait de mélange. Et j'ai envie de l'honorer ce matin. Et j'ai envie que pendant que c'est fête, qu'il soit à lui toute la gloire. Et je ne veux pas marquer dans mes murs de ma maison « Joyeux Noël ». Je veux marquer que Jésus est la lumière du monde. Et cette maison, c'est la lumière de Dieu. Et je veux qu'il n'y ait rien à voir avec le paganisme. Je veux qu'il n'y ait rien à voir avec toutes les choses de cette terre. Alors si vous permettez, j'aimerais qu'on termine par un chant. Tu permets ? J'aimerais qu'on chante « Père, je viens devant toi maintenant pour te louer ». Alors, frères et sœurs, nous allons réveillonner ce soir, nous allons nous réjouir en famille, mais mettons Dieu à la première place. Ne le mélangeons pas avec toutes les choses de ce monde. Qu'il soit vraiment le premier dans notre cœur, dans notre vie. Nous voulons l'honorer, le célébrer, lui rendre gloire. Et c'est ce que son Église veut faire encore ce matin. Amen.